Le port du masque, un handicap supplémentaire pour les personnes malentendantes, étant donné, bien sûr, que les personnes malentendantes, les sourds, lisent la plupart du temps sur les lèvres et c'est impossible devant quelqu'un qui porte un masque qui couvre justement la bouche. J'en parle, entre autres, avec Jeanne. Je parle notamment de ça avec Jeanne Choquette, présidente Audition Québec. Bonjour, Jeanne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Jeanne. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sourdes au Québec qui lisent sur les lèvres pour comprendre leurs interlocuteurs?
Oui, ben les statistiques disent qu'il y a 10 à 15 % des gens, chiffre exact, mais oui, il y a beaucoup de monde. Les sourds, c'est certain qu'ils s'expriment en langue des signes du Québec, la LSQ, et en ce moment, on les voit beaucoup là, derrière les points de presse du premier ministre Legault, du premier ministre Trudeau, de Valérie Plante à Montréal. Ça donne une belle visibilité, mais la surdité, c'est un handicap invisible. Il n'y a pas juste les sourds, il y a les malentendants. Moi, je suis une malentendante. J'ai deux implants cochléaires. Je ne parle pas la LSQ. Moi, pour comprendre comme il faut, j'ai besoin de la lecture labiale. Alors, les masques, c'est sûr que pour nous, en ce moment, c'est un peu angoissant parce que quand le déconfinement va commencer, on s'attend à ce que de plus en plus de gens portent des masques. À New York, c'est devenu obligatoire. Alors, oui. imaginez. Puis les sourds aussi sont handicapés parce que la figure, si vous regardez un interprète LSQ, sa figure, là, c'est comme les points de ponctuation. Alors, même les sourds sont désavantagés par les gens qui portent des masques.
Et Jeanne, j'ai lu que vous aviez commandé des masques avec une fenêtre transparente, donc, pour les personnes sourdes et malentendantes, qui sont approuvées par Food and Drugs Administration. Est-ce que vous les avez reçues?
Non, pas encore. Et je suis ça. Vous savez, quand on commande un colis, on peut suivre où il est. Et ça fait une semaine qu'il est dans un entrepôt au New Jersey.
Ah oui?
Mais je peux déjà vous dire que l'Institut Raymond Dewar à Montréal en a reçu, pas de la même compagnie. Donc, ce sont des masques avec une visière transparente à la hauteur de la bouche. Le problème, c'est que ces masques-là, même aux États-Unis, ne sont pas suffisamment sécuritaires pour traiter un patient qui a la COVID-19.
Bon, alors ça serait plus pour monsieur, madame, tout le monde dans la rue, mais pas dans les centres médicaux, les CHSLD, les hôpitaux.
Non.
OK.
Oui. Il est possible que l'IRD, l'Institut Raymond Dewar, qui a eux, ils ont des intervenants au quartier des spectacles, à la clinique sans rendez-vous. Mm-hmm. Le coordonnateur du CIUS de l'Est de l'île de Montréal m'informe que ça se pourrait qu'à un moment donné, ces masques-là soient utilisés en respectant une distance de 2 mètres.
Oui.
Mais c'est sûr que si le patient est à l'hôpital, ça serait impossible.
Oui. Alors, vous avez donc créé une vidéo très, très intéressante que j'ai regardée de A à Z. J'ai appris plein de choses, vous donner toutes sortes de conseils utiles. Est-ce que vous voulez nous en parler des solutions que vous proposez?
Oui. Bien, c'est certain que, il va falloir être tolérant, d'un côté comme de l'autre. Tout le monde, je pense, on a tous les nerfs à fleur de peau un peu en ce moment.
De plus en plus on dirait.
Oui. Et puis, je vous dirais qu'il y a des gens, des associations régionales et provinciales de malentendants qui ont eu des mauvaises expériences. Par exemple, un commis de pharmacie qui fait son possible quand même pour respecter les règles sanitaires. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que est-ce que ce serait possible de vous reculer de 2 mètres et de baisser votre masque juste le temps de la conversation? Et vous n'avez pas besoin de crier. Parce que nous, on est des spécialistes de la lecture labiale. Il pourrait avoir aucun son qui sorte de votre bouche, puis on pourrait comprendre pareil.
Alors, faut pas être gêné de donner l'information, puis faut pas être gêné non plus de dire qu'on est sourd ou qu'on est malentendant.
C'est ça. Exactement. Nous aussi, on a un rôle à jouer, les malentendants. Il faut s'identifier comme tel. À Audition Québec, on a des épinglettes, on a des autocollants avec l'oreille barrée qui nous identifient comme malentendants. Alors, il faut pas avoir peur de se faire respecter. Puis en même temps, du côté des entendants, il faut que les gens soient tolérants envers nous.
Et le téléphone aussi, c'est un de vos ennemis, n'est-ce pas? Puis en ces temps de COVID-19, ça aide pas du tout, là, parce qu'il faut appeler pour avoir plus d'informations sur le coronavirus. Quand on pense qu'on a des symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui. Alors, en ce moment, je vous dirais on est en communication, Audition Québec, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Office des personnes handicapées pour trouver une solution à ce problème-là. Cet après-midi, on a une vidéoconférence Zoom avec toutes les associations provinciales de malentendants et plusieurs associations régionales.
Ah oui, il y en a combien d'associations de malentendants?
Je dirais qu'il y en a 8 ou 9. Alors, il va y avoir, Audition Québec, on est là, il va y avoir les implantés cochléaires, Acouphènes Québec, le Centre de communication adaptée, le réseau québécois de l'inclusion sociale des personnes malentendantes. Il va y avoir la PDA, c'est l'Association des personnes avec une déficience de l'audition, la DSMQ des Bois-Francs, de Repentigny, l'Association de Laval. Il y a plusieurs régions, l'Association de Louis de l'Outaouais, j'en oublie.
Alors, la réunion se fait cet après-midi?
Après-midi. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver des solutions à ça. Parce que les malentendants, il y en a plusieurs qui ont 70 ans et plus, premièrement. Il n'y a pas juste cette tranche d'âge-là, mais il y en a plusieurs. Oui. Et rendus à cet âge-là, ils n'ont pas nécessairement un téléphone cellulaire ou ils ne peuvent pas communiquer par Zoom ou FaceTime. Alors, il faut trouver une solution. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, entre autres, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une adresse courriel? Parce que souvent, ils ont une tablette puis ils peuvent envoyer des courriels pour prendre un rendez-vous avec une clinique de dépistage. Parce que le téléphone, c'est un obstacle. Alors, cet après-midi, on va essayer de trouver des solutions à proposer au ministère. Et je tiens à souligner que le ministère, en termes de déficience auditive, ils sont très ouverts et proactifs.
Ils sont à l'écoute.
Et on travaille en collaboration, oui.
Sont à l'écoute sans vouloir faire de jeu de mots.
Exactement.
Oui, oui. Alors vous êtes présidente d'Audition Québec depuis combien de temps, Jeanne Choquette?
Ça fait moins d'un an, mais okay. J'étais sur le conseil d'administration avant.
Et est-ce que vous êtes très sollicitée de ces temps-ci?
Oui, on est très actifs sur Facebook et c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut avoir du feedback, si vous voulez, de la rétroaction de gens qui sont malentendants. Par exemple, la vidéo sur les masques, il y a plusieurs personnes on a payé un petit peu de publicité sur Facebook. Il y a 100 000 personnes qui l'ont vu passer dans leur ville, dans leur fil Facebook. Et il y a beaucoup de monde qui ont réagi, qui ont dit, ben c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Puis je vous dirais que même vous, qui entendez bien, vous allez remarquer que vous lisez sur les lèvres sans vous en rendre compte.
Mais ça m'étonne. Je vais être plus observatrice la prochaine fois. Oui, même les gens qui entendent bien sont portés à regarder les lèvres de la personne qui parle pour mieux entendre.
Absolument. Oui, parce que souvent, vous savez, quand on porte des lunettes, on dit « Hey, je t'entends pas ». Mais c'est parce que vous lisez sur les lèvres.
Oui. Et puis, Jeanne, vous parliez tantôt de l'oreille barrée. C'est quelque chose qu'on connaît plus ou moins, surtout si on n'est pas sourd ou malentendant, mais vous dites qu'on peut mettre ce timbre-là sur la carte d'assurance maladie
ou d'hôpital. Oui, exactement. Alors, on vous identifie, mais c'est pas tout le monde, effectivement, qui connaît la signification du symbole qui est pourtant universel.
Oui, parce que c'est vraiment une oreille avec une barre qui passe au travers en diagonale. Parce que même les gens qui travaillent dans des hôpitaux ou ailleurs, qui reçoivent cette carte-là, faut des fois leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
Absolument. Puis il faut aussi dire, encore une fois, c'est pas nécessaire de crier la plupart du temps.
Ah, oui. même pour les personnes âgées, souvent, il y a des gens qui crient en pensant qu'ils sont sourds naturellement parce qu'ils sont âgés.
C'est ça. Il faut voir votre visage. C'est quelqu'un qui me chuchote à l'oreille, moi, ça ne me donne absolument rien. Il faut que je la regarde, elle pourrait ne pas parler, puis je vais la comprendre. Mm-hmm. Puis je veux juste souligner aussi qu'il y a un service d'interprétation vidéo à distance. Les sourds qui s'expriment en LSQ sont habitués à ça. C'est un service qui est offert par le CIVET, le service d'interprétation visuelle et tactile. Et à Québec aussi, il y a le service d'interprétation. Alors, ce qu'on a gagné, si vous voulez, c'est que, par exemple, un patient sourd qui serait hospitalisé et qui aurait sa propre tablette ou son cellulaire aurait accès au Wi-Fi de l'hôpital et pourrait faire une conférence Zoom avec le CIVET. Alors, le médecin parle, l'interprète sur la tablette signe, et le sourd peut comprendre ce que le médecin est en train de lui dire.
Ah, ben c'est merveilleux.
Alors, oui, et ça pourrait aussi marcher pour les malentendants, mais nous, on est moins habitués à ce genre de service.
OK. Auditionquebec.org pour avoir plein d'informations, pour aussi voir votre vidéo qui est sous-titrée, ça c'est très bien, et
oui.
Se rappeler qu'on a tous un rôle à jouer.
Absolument.
Merci beaucoup, Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. Bonne santé, à la prochaine.
Merci, au revoir.
Le merveilleux Al Green. Bonne suggestion, ma chère Hélène, avec la chanson « Let's Stay Together ».
Ah, oh, je suis contente que ça vous ait fait plaisir. Et je pense que ça a fait plaisir à plusieurs auditeurs et auditrices, hein, une chanson qui se prend bien en ce vendredi 17 avril. Et on joint encore une fois Francine Forgette. Francine, vous allez nous parler maintenant des jeux vidéo qui sont bénéfiques, vous.
Bien, en période de confinement,
oui.
Hein, parfois, on découvre qu'il y a des choses. Des activités, des expériences qu'on fait qui peut-être comportent des volets négatifs, je veux dire ça comme ça, qu'on a eu tendance à démoniser, mais finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des effets bénéfiques et c'est le cas des jeux vidéo. C'est du moins ce que révèle une enquête qui a été menée par M. Faustin Étindel, qui est un chercheur en médecine du sommeil de l'UQAM et un de ses collègues, Yann Leroux, qui est psychologue. C'est dans l'actualité dont on a parlé, le site web de l'actualité, dont on a parlé de cette étude. C'est extrêmement intéressant parce que, justement, ce qu'on dit, c'est que, ben, c'est sûr que depuis les 5 dernières années, il y a eu toutes sortes de débats passionnés autour des jeux vidéo. mais que dans le fond, la pratique du jeu vidéo dans un, je dirais, un environnement contrôlé, je vais dire ça comme ça, ça peut faciliter l'expression de soi, ça peut nourrir le bien-être émotionnel, renforcer des relations sociales et améliorer certaines fonctions cognitives.
Dans un environnement contrôlé.
Oui, toujours contrôlé. Mais contrôlé, on s'entend, là, c'est le contrôle est beaucoup lié, ben, je dirais, au type de jeu vidéo, d'une part, et d'autre part, le temps d'utilisation.
Ah oui.
Ça, c'est sûr que présentement, si on passe son temps là-dessus, ben évidemment, l'environnement contrôlé, c'est pas tout à fait, ça correspond pas à la définition de l'environnement contrôlé.
C'est là que ça peut devenir nocif.
Oui, c'est ça. Je vais commencer par la fin de cet article. Puisque dans la fin de cet article, on parle du développement du marché de l'industrie du jeu vidéo, qui, il y a quelques années, a cherché à élargir son bassin de clientèle. On est toujours comme ça, on est en business, et le signe de pièce, je pense pas que ça va changer, même après le confinement. Ça demeure très important. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que sont apparus les fameux jeux qui, en fait, sont vraiment orientés vers, une santé physique. Je vais dire ça comme ça. Et c'est particulièrement utile, évidemment, dans un temps de confinement, hein, qui est souvent égal à sédentarité. Mais la sédentarité, c'est aussi la situation dans laquelle se retrouvent des aînés. Et les aînés ont adhéré, je dirais pas massivement, mais quand même un certain nombre, ont adhéré à ces jeux vidéo faits pour eux, je vous dirais, qui les aident finalement à avoir un centre d'entraînement personnel, je dirais ça comme ça, donc qui va augmenter significativement leurs dépenses énergétiques, leur activité cardio-respiratoire, durant des séances qu'ils peuvent faire chez eux, je répète, et qui peuvent remplacer un centre d'entraînement, qui peuvent se faire aussi selon leur rythme, selon évidemment leur état physique, et leur autonomie. Alors, je trouvais ça intéressant parce que souvent, quand on regarde jeux vidéo, on ne pense pas à ce groupe.
Ben, pas du tout.
On ne pense pas du tout. Le jeu vidéo aussi, bon, il y a des vertus qu'on connaît quand même, là. C'est sûr que de se concentrer à jouer, quel que soit le jeu, y compris les jeux vidéo, c'est aussi un outil anti-stress. Hein? On aurait découvert le Scrabble conventionnel, le Monopoly, etc. Toutes des choses qu'on avait un peu oubliées parce que c'était trop long souvent de jouer à ces jeux, même quand on fait des parties puis qu'on sortait les jeux, c'était pas nos favoris et on les a redécouverts. Mais le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Je m'embarque dans un univers qui me soustrait complètement à la réalité et ça me permet de m'aérer. Donc, c'est un outil anti-stress que révèle l'étude. C'est aussi un lien entre les générations. Bon, alors on est en famille, on est confiné. Alors, pourquoi pas jouer en famille à un jeu qui va unir, je vous dirais, tous les membres de cette même communauté.
En famille, donc, mais qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes lieux. C'est ce que
dans le même lieu, dans le même lieu aussi,
okay.
Parce que ça va, c'est quasiment un outil intergénérationnel. Si on est en famille avec les enfants, le papa, la maman, les enfants à un moment donné, puis que, bon, le papa, la maman sont un petit peu tannés, ils doivent toujours être dérangés pendant le travail, les enfants commencent à être assez exaspérés. Hein. Moi, je pense souvent, on parle beaucoup des personnes âgées, tout ça, mais moi, je pense souvent à ces pauvres enfants, par des parents aussi qui ont de la difficulté à supporter, je dirais, cet environnement familial, parce que c'est pas à ça qu'on est habitué de toujours être en famille, sur une base en continu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais les enfants aussi qui ont besoin, là, écoutez, de s'éclater. Cette semaine, moi, je me promène dans le Vieux-Port, je suis chanceuse, je suis à proximité du Vieux-Port, je peux aller me promener, il y a une surveillance policière qui s'assure qu'on respecte vraiment les consignes.
Oui.
Et il y avait des enfants qui jouaient dans des flaques d'eau. Et la maman a dit au début, non, parce qu'il sautait tellement fort qu'il était en train de prendre une douche à partir des pieds. Je vais dire ça comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu son expression, puis j'ai l'impression qu'elle a dit, oh, forget it. Elle les a laissés aller.
Oui, découvre les flaques d'eau, joue au canard.
Elle les regardait jouer, elle était heureuse. Puis moi, ça m'a fait sourire et même monter un petit peu
Alors, des jeux vidéo, oui, mais prendre l'air, c'est tellement agréable également. Francine, on s'arrête, puis on continue avec un autre sujet. Est-ce qu'on va encore aimer notre ville après la crise? Moi, je pense que oui, mais on vous écoute dans un petit moment.
C'est bon, là.
Je suis heureux plus souvent qu'avant quand je me lève puis que je prends mon café. Les nouvelles dans le journal sont pas plus géniales, mais je sais pas, je me sens correct. Y a du soleil qui réchauffe ma chaise puis mon cahier. Me semble qu'il y en a bien plus qu'avant, me semble que la vie c'est moins compliqué. Qui se calme, le calme qui se glisse à l'intérieur de mes veines. La tempête est toujours là au fond de mes reins, mais je sais pas, je me sens plus zen. J'ai moins de haine, de misère devant la bêtise humaine. Le ridicule ne me tue presque plus et j'aime un peu plus la race humaine.
Dans la catégorie des artistes qu'on n'écoute pas souvent, Marc Derry, ça fait toujours du bien.
Oui.
Fais un petit bout.
Il est bon, ce oui. Marc Derry, auteur, compositeur, interprète depuis. Merci, Mathieu. Il est presque 10h25 et on s'en va joindre Francine. Francine, vous allez donc nous parler d'un texte qui vous a inspiré. C'est la question, est-ce qu'on va encore aimer notre ville après la crise?
Oui, Léa Strelitzky écrit régulièrement des chroniques sur le site web de l'actualité là, pendant cette période pas facile.
Elle est très, très présente sur Twitter. Je ne sais pas si vous êtes une abonnée à son compte.
Oui, effectivement. Oui, elle est très présente sur les médias sociaux. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle parle de sujets, toujours en lien avec la COVID-19, mais qui nous interpellent autrement. Des questions qu'on se pose et puis on se dit sont pas si importantes que ça finalement, mais oui, elles sont importantes. Et sa question, aimerons-nous encore la ville? Ben moi, ça m'a interpellée parce que moi, je vis en plein centre-ville, dans un endroit qui est pas calme, je pourrais dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup toute cette espèce d'effervescence qu'il y a autour des habitudes du centre-ville. Et un peu comme elle, parce qu'elle dit, moi, je suis une citadine, j'ai toujours, depuis que je suis née, que je vis dans une ville, quand j'ai déménagé, je me suis retrouvée dans d'autres villes, et c'était pas les moindres, comme par exemple Paris. Donc, on partait pas d'une ville comme Montréal pour s'en aller dans une ville beaucoup plus, je dirais, avec moins d'habitants et plus tranquille. Et la question qui se pose, c'est que on a découvert, hein, ceux qui habitons des villes quand même assez populeuses, qui avaient des étoiles, qui avaient des étoiles dans le ciel de nos villes. On le sait, mais on les avait pas vues.
Oui, des fois, on ne les voit pas.
On ne les avait pas vus. Qu'il y avait des oiseaux. Qu'il y avait des oiseaux. Et que ça existait, une ville avec un cœur dynamique qui est tout à coup dans le silence. Elle dit le silence s'invite au cœur des cités et que l'on a droit à une pause. C'est vraiment intéressant et c'est un peu ça. Et ça ne crée pas l'ennui. Ça pourrait amener l'ennui. Mais ça ne crée pas l'ennui.
Au contraire.
Ça permet, oui, c'est ça, mais ça permet aussi de redécouvrir le centre-ville, de redécouvrir des lieux où parfois on passe rapidement, mais sans vraiment regarder. Donc, on aiguise notre œil, nos sens, puisque aussi on entend de nouveaux bruits qui sont beaucoup plus en sourdine qu'avant. Et on a vu que la vie est possible sans l'étalement urbain, je vous dirais ça comme ça. Donc, les moteurs, en fait, les autos qui traversent les ponts chaque jour ne sont plus là.
Si on s'ennuie pas de ça.
On s'ennuie pas de ça. Mais avant, ça nous prenait ça, sans ça, on avait comme une espèce d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe?
C'est sûr que c'est tranquille aujourd'hui.
Donc, pas de voiture. Pas d'avions qui non seulement font du bruit, on le sait, mais qui en même temps salissent le bleu du ciel. Et c'est ce qui fait que ça crée une pollution qui nous empêche, entre autres, de voir les étoiles, les pleines lunes, etc. Alors, c'est des choses comme celle-là. Est-ce qu'on va se réhabituer aussi à la foule? À la foule, on dit « Ah, ça va nous manquer, la foule des grands festivals. » Mais quand on va se retrouver là-dedans, moi, je m'imaginais dans mon quartier où il y a énormément de touristes l'été. Là. Hein, on a de la misère à circuler. Et là, tout à coup, il y a vraiment beaucoup d'air.
Oui, vraiment, ça...
Ça, moi, quand mes amis touristes vont revenir...
Ça va prendre une grande période de réadaptation. Mais j'entendais exactement aussi Francine Isabelle Boulay, tout le monde en parle, qui parlait de cette réalité qu'on vit tous en ce moment. Elle évoquait les mots « affliction » et « bénédiction », parce qu'il y a du très bon puis du très mauvais. Mais c'est vrai, profitons-en de ce silence et de ces nouveaux bruits, de ces ciels qu'on n'est plus habitué vraiment de voir à Montréal. La lune récemment, elle était extraordinaire.
Oui, extraordinaire.
Francine, merci pour votre collaboration. J'espère qu'on va se retrouver vendredi prochain.
Sûr, madame.
Bon week-end, madame.
Au revoir, et vous aussi.